Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient et protégez-vous. Au programme, la suite de Leçon d'histoire de Jacques Parizeau et comment régler les problèmes d'humidité dans la maison. Bonne écoute!
C'est le tarif protecteur qui a permis de lancer l'industrie canadienne et de diminuer considérablement l'émigration vers les États-Unis, une mesure qui n'avait absolument rien de libéral. Je sens une certaine admiration dans la voix de l'ancien premier ministre. Voilà le genre de politique volontariste qui lui plaît. À ses yeux, l'économie n'est pas un monde clos sur lui-même, une sorte d'univers parallèle. Lorsque l'économie ne va pas dans la direction souhaitée, les politiques doivent intervenir et forcer un recadrage. S'il avait été premier ministre du Canada à la fin du 19e siècle, monsieur aurait lui aussi adopté une politique nationale pour faire entrer son pays dans l'ère industrielle. Si son attention est attirée par ce fait, c'est précisément parce qu'il estime que le nouveau programme évacue la dimension politique, omet de présenter des décisions essentielles qui eurent des répercussions souvent déterminantes sur le cours de l'histoire. D'accord pour dire que l'histoire, c'est pas seulement les actions des grands hommes, pas seulement Napoléon qui dit « je décide et voilà ». Mais si on présente la dimension économique, encore faut-il expliquer les vraies choses et ne pas faire de contresens. Jacques Parizeau n'a évidemment rien contre une histoire qui accorde une place importante aux structures économiques. Le contraire aurait été surprenant, vu sa formation. Mais un récit qui présente l'économie comme une force complètement indépendante de la volonté humaine passe, selon lui, à côté de l'essentiel. Assis en face de lui, deux jours plus tard, je prends note de ses critiques du programme, et elles sont nombreuses. L'échange dure 2 heures et me permet de découvrir la conception que se fait Jacques Parizeau de la grande histoire humaine et du passé québécois. Il ne s'attarde pas aux 40 premières pages du document qui explique la philosophie du nouveau programme, mais également les idées maîtresses du renouveau pédagogique. Je comprends que, pour lui, c'est du charabia d'expert et qu'une critique frontale de cette philosophie socio-constructiviste risque d'être trop abstraite et donc moins efficace au plan politique. J'aimerais le sensibiliser au fait que cette réforme du programme d'histoire doit être situé dans une entreprise intellectuelle beaucoup plus large et ambitieuse, laquelle n'accorde pas beaucoup d'importance aux faits, à la culture et à l'idée même de transmission. Je sens que mes arguments tombent à plat, que ça ne l'intéresse pas, même s'il a lu quelques textes de Normand Baillargeon sur le sujet. Sans surprise, le nouveau programme accorde une place importante aux Autochtones. Monsieur comprend bien l'idée, mais il tourne en dérision la vision idyllique du programme. « Ils font d'eux des hippies », lance-t-il avant d'étouffer un rire si caractéristique. Adepte d'une philosophie du don et du contre-don, expliquent les rédacteurs du programme, les premiers habitants rencontrés par les Français auraient été étrangers au capitalisme fondé sur une logique d'intérêt. Les Autochtones étaient aussi des commerçants. Un peuple comme les Hurons avait le monopole des fourrures dans la région des Grands Lacs. Les Autochtones de la Rivière Rouge contrôlaient le marché des pointes de flèches, parce qu'il vivait tout près d'une mine de silex, explique-t-il. Quant à la notion de possession du territoire, monsieur juge ces formules anachroniques. Ils vivaient, habitaient sur le territoire, certes, mais c'était des nomades. Il faudrait expliquer que leur conception de la propriété du territoire n'était pas la même que celle des Européens. Jacques Parizeau déplore que les Autochtones soient présentés uniquement comme des victimes, alors qu'au commencement, ils étaient de vrais acteurs de leur histoire, qu'ils firent du troc et établirent des alliances avec les Français ou les Anglais, en fonction de leurs propres intérêts stratégiques. La représentation des Autochtones proposée par le programme, juge-t-il, rappelle le mythe du bon sauvage d'un Jean-Jacques Rousseau. La partie consacré à l'émergence de la société canadienne en Nouvelle-France, ne l'impressionne guère non plus. Les motivations économiques de la France et des autres nations européennes lui semblent escamotées. On oublie qu'on cherchait un passage vers la Chine, une route vers l'Est. Il déplore aussi l'absence de présentation des premiers habitants d'origine française. On ne sait trop qui ils ou elles étaient? Quelles étaient leurs motivations? Combien sont restés et pourquoi? Il revient également sur la confusion récurrente dans le programme entre libéralisme et capitalisme, économie libérale et droit de propriété. Je lui fais valoir que les chercheurs d'ici qui ont étudié l'émergence du libéralisme, je pense au politologue André Vachet et à l'historienne Fernande Roy, se sont surtout fondés sur la pensée d'un John Locke qui voyait dans le droit de propriété la prémisse philosophique et légale de l'individualisme libéral et moderne. « C'est bien beau, John Locke, » répond-il. Nullement désarmé. Mais ces idées d'individualisme possessif vont prendre énormément de temps avant de se répandre. Quant au droit de propriété, c'est une affaire qui existe dans les villes dès le Moyen Âge. Il ne faut pas tout confondre. Il poursuit sur cette lancée, qui nous mène au 19e siècle, une période qu'il trouve passionnante. Il constate qu'on assimile souvent le libéralisme et libre-échange. Or, la grande majorité des politiciens et penseurs libéraux de l'époque étaient d'ardents protectionnistes. Seule la Grande-Bretagne, qui disposait d'un empire immense, a aboli le tarif sur le blé en 1846 et commencé à promouvoir le libre-échange. Mais c'était une exception. Nous évoquons la crise politique de 1849 et le manifeste annexionniste signé par Louis-Joseph Papineau et une poignée de rouges proches de l'Institut canadien. Monsieur ignorait que ces libéraux canadiens-français avaient sérieusement envisagé l'annexion aux États-Unis. Nous enchaînons sur la crise des années 1930, un moment critique dans l'histoire du 20e siècle, que le programme aborde trop rapidement, selon lui. Un drame, cette époque. La preuve que l'économique sans le politique, c'est dangereux et ça peut mener à des catastrophes. Il admire Keynes, l'audace du New Deal et les grandes réformes sociales lancées par les travaillistes britanniques après la Seconde Guerre mondiale. Rien de ce qu'il dit de la Révolution tranquille ne me semble nouveau ou original. Je retiens qu'il ne cherche pas à se mettre en valeur. Une fois nos échanges sur le programme terminés, je lui fais remarquer que nous connaissons finalement assez peu sa trajectoire intellectuelle, les principaux auteurs et penseurs qui l'ont influencé. Il me montre une rangée de cartables, derrière moi, qui contiennent ses notes de cours. Tout est là. Mais je ne me vois pas donner des entrevues sur ces questions. C'est personnel, tout ça. Il reconnaît toutefois sa dette envers Hegel, un philosophe qui a recherché l'équilibre et la synthèse, souligne-t-il, mais sans aller plus loin. Avant de clore notre entretien, je lui pose cette dernière question qui me travaille depuis un moment. Vous dites que l'histoire, ce n'est pas seulement la volonté humaine, que les structures économiques sont importantes, souvent déterminantes. C'est incontestable. Mais en y repensant, je me disais que si vous n'aviez pas été là en 1995, il n'y aurait pas eu de référendum. Nous sommes passés à deux cheveux de faire l'indépendance par votre seule volonté, même si, bien sûr, vous étiez porté par un élan historique et un grand mouvement social. Et cela dit, objectivement, il n'y avait plus de raison économique de faire l'indépendance en 1995. Nous n'étions plus des nègres blancs. C'est vrai, me répond-il. Mais il y a un moment pour tout. D'abord, il fallait que les Québécois reprennent confiance en eux, qu'ils se montrent à eux-mêmes qu'ils pouvaient réussir, aussi bien que les autres, au plan économique. Puis, il fallait donner un élan politique à tout cela. C'est pour ça que l'évêque a été si important. Mais j'étais son intendant. En 1995, nous étions mûrs pour compléter, achever cet élan. Il ne servait à rien d'attendre. Nous étions prêts. Le référendum de 1995 n'est pas pure volonté. C'est aussi un aboutissement. Raté, certes, mais un aboutissement quand même. Un jour de février 2013, je reçois un coup de téléphone d'un fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Porté au pouvoir en septembre 2012, le Parti québécois avait promis de revoir le programme de 2006 en y intégrant les pans les plus importants de notre histoire politique et nationale. Le hic, c'est que la nouvelle ministre avait confié cette refonte à un sous-ministre qui s'était, tout naturellement, tourné vers le fonctionnaire responsable des programmes d'histoire depuis les années 1990. Entre-temps, j'avais compris que c'était ce fonctionnaire qui avait rédigé le rapport Lacourcière, lequel avait beaucoup inspiré le programme de 2006 qui avait tant heurté l'opinion publique et Jacques Parizeau. C'était lui, le porteur de ballon, lui, l'acteur clé, qui, avec le concours de quelques didacticiens et de certains intellectuels, avait piloté cette réforme du programme d'histoire. En entendant son nom et sa voix au bout du fil, j'étais un peu sous le choc. Le gouvernement Marois s'apprêtait à confier sa révision du programme d'histoire au personnage qui avait été la cheville ouvrière d'un cours qu'il fallait complètement revoir. Ce monsieur m'invitait à siéger à un comité élargi d'historiens, parmi lesquels on retrouvait Jocelyn Létourneau. Lorsque j'ai compris ce qui se tramait, j'ai aussitôt téléphoné à la chef de cabinet de la ministre, que je connaissais très bien, heureusement. Le samedi suivant, je la retrouve dans un restaurant de Montréal et je lui fais part de ma rencontre de 2006 avec Jacques Parizeau. Mon récit l'intéresse beaucoup. Comme moi, elle respecte énormément l'expérience de monsieur. Quelques jours plus tard, à la demande de la chef de cabinet, je suis reçue par la ministre à qui j'explique que, si elle souhaite aller de l'avant avec cette réforme de programme, il faudra impérativement que l'on confie la refonte de ce cours à une autre personne, sans quoi le gouvernement risque de ne pas remplir sa promesse. Je suis probablement convaincant, car j'apprends, quelques semaines plus tard, que le personnage a été muté à un autre poste et que le comité d'historiens a été dissous. Deux universitaires respectés, le sociologue Jacques Beauchemin et l'historienne Nadia Fahmy-Aide, sont chargés de consulter les enseignants, les didacticiens, diverses associations et les historiens intéressés par la question et de formuler une série de recommandations. Au début de l'année 2014, le rapport est rendu public et la refonte du programme lancée juste avant la défaite péquiste en avril de la même année. Probablement parce que Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation dans le gouvernement Couillard, était un vrai passionné d'histoire, l'esprit du nouveau cours révisé a été respecté. De sorte que le programme d'histoire actuel de 3e et 4e secondaire constitue toujours l'un des beaux legs du gouvernement marois. En mai 2006, Jacques Parizeau, en plus de m'informer de sa vision de l'histoire, m'a fait comprendre comment une réforme aussi importante que celle d'un programme d'histoire pouvait cheminer dans un ministère important. J'en ai tiré la leçon suivante. En politique, il ne suffit pas d'avoir des idées claires pour que les choses aboutissent. Il est primordial de savoir identifier les acteurs d'un système, de comprendre la mécanique d'une administration publique. Un ministre qui souhaite opérer des changements importants doit s'assurer que ceux qui vont porter le ballon partagent ses valeurs et souscrivent aux intentions de son gouvernement. C'était « Leçon d'histoire de Jacques Parizeau » par Éric Bédard, paru à l'été 2022 dans la revue L'Inconvénient.
Comment régler les problèmes d'humidité dans la maison? Un texte de Stéphanie Lalue et Marie-Ève Schaffer, paru le 15 décembre 2022 dans Protégez-vous. Le bas de vos fenêtres ressemble aux traces laissées par un verre de limonade posé sur la table en pleine canicule? Votre maison a peut-être un problème d'humidité. Voici quoi faire pour remédier à la situation. Vous pensez que le taux d'humidité est trop élevé dans votre maison, vous n'êtes pas seul dans cette situation, mais vous devez agir vite pour limiter les dégâts. Vous pouvez déceler un taux d'humidité excessif par une odeur de terre humide ou de moisie. La formation de moisissures est un autre signe avant-coureur. Vous trouverez alors des taches noires, blanches ou vertes sur les murs, le plafond, le bord des fenêtres, les tapis et les tissus. Soyez également à l'affût de la peinture qui s'écaille et du plancher qui se déforme. Sachez que plus il y a d'eau, plus les moisissures sont susceptibles de se développer. Ces champignons microscopiques endommagent les matériaux sur lesquels ils croissent. Ils dégagent en plus des toxines et des spores qui sont la cause de troubles respiratoires et de nombreuses allergies. Pour dénicher la présence de moisissures, évitez d'avoir recours à une analyse de la qualité de l'air. Santé Canada mentionne qu'un tel test ne vous indiquera pas l'origine du problème. Comme la moisissure fait naturellement partie de l'environnement, il y a toujours des spores de moisissure dans l'air, précise également le ministère fédéral. Le taux d'humidité d'une maison devrait se situer entre 30 et 50. Plus bas, il y a plus d'électricité statique et les voies respiratoires peuvent s'assécher et devenir irritées. Et au-delà de 50, bactéries, moisissures et acariens prolifèrent. Les personnes asthmatiques ou souffrant d'allergies respiratoires profiteront d'un taux d'humidité se situant entre 40 et 45 %. Pour prévenir l'apparition de moisissures, nettoyez régulièrement toutes les surfaces et passez l'aspirateur afin d'éliminer les spores de votre maison. Pour avoir à l'œil le taux d'humidité, procurez-vous un hygromètre. Dès que l'aiguille dépasse 50 %, réagissez. Un déshumidificateur vous sera utile en attendant de trouver l'origine de cette quantité importante d'eau dans l'air. Surtout, rappelez-vous qu'une humidité excessive entraîne l'apparition de moisissures qui peuvent endommager la structure de votre demeure. La condensation sur les fenêtres peut sembler anodine sur un cadrage en PVC, mais elle risque de se frayer un chemin en dessous et d'attaquer le bois. Attention, si les moisissures couvrent plus d'un mètre carré, qu'elles réapparaissent constamment malgré vos efforts de nettoyage ou que vous ignorez la cause de ce problème, consultez rapidement une entreprise qui possède une expertise dans les problèmes d'humidité. Assurez-vous qu'elle détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec et vérifiez auprès de l'Office de la protection du consommateur si elle a fait l'objet de plaintes. Bon à savoir, dans le cas d'une maison neuve, il est normal que le taux d'humidité soit plus élevé durant la première année. Le béton du sous-sol et le bois de construction ne sont pas complètement secs. C'est ce qui explique souvent les traces de condensation au bas des murs. Quatre sources d'humidité qui apparaissent avec le temps. Infiltration. L'eau peut s'introduire dans votre maison de plusieurs façons. Dans la cave, la composition du sol, l'inclinaison du terrain ou même l'usure des matériaux sont des causes fréquentes d'infiltration d'eau. Un drain français bloqué ou un problème avec la fosse de retenue peuvent aussi permettre à l'eau de se frayer un chemin. Même chose quand les gouttières sont bouchées ou mal installées ou que le calfeutrage des portes et des fenêtres est sec. En cas de doute, faites appel à un expert pour trouver la source de ces infiltrations. La chaleur dans le vide sous le toit. La ventilation dans le comble, entre toit, de votre résidence est-elle suffisante? L'isolation y est-elle adéquate? Si vous répondez non à l'une de ces questions, votre maison est à risque. Un barrage de glace risque de se former sur le toit et d'entraîner des infiltrations d'eau pendant le dégel printanier. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment régler les problèmes d'humidité dans la maison », un texte de Stéphanie Lalue et Marie-Ève Schaffer, paru le 15 décembre 2022 dans « Protégez-vous ». Mauvaise évacuation de l'air humide. Nos habitudes de vie peuvent produire beaucoup d'humidité. Prendre une douche et cuisiner crée de la vapeur, tout comme faire sécher de grosses brassées de linge à l'intérieur. Les plantes et les aquariums augmentent aussi la quantité d'eau dans l'air. Or, certaines salles de bain et cuisine ne sont pas munies d'un ventilateur ou d'une hotte pour expulser l'air humide. Sous-sol mal adapté à un usage intensif. La majorité des sous-sols, construits jusque dans les années 1970, n'étaient pas conçus pour être aménagés en salle de jeu ou en chambre. Des propriétaires qui les ont rénovés sans le savoir sont surpris d'y retrouver des problèmes d'humidité dans les murs ou les tapis. Régler définitivement les problèmes. Afin de régler définitivement les problèmes d'humidité dans une maison, il faut tout d'abord corriger la structure. Fuite. Assurez-vous de trouver la source de ces fuites, toiture, revêtement extérieur, comble, gouttière, drainage, etc., et effectuez rapidement les travaux nécessaires. Ventilateur, extracteur dans la salle de bain. L'installation ou le remplacement d'un ventilateur est essentiel. Prenez l'habitude de le faire fonctionner pendant les douches et les bains. Pour être efficace, votre ventilateur doit expulser au moins 50 pieds cubes d'air à la minute. Choisissez un produit certifié par le Home Ventilating Institute, ce qui vous assurera qu'un laboratoire indépendant a vérifié les données sur le bruit et le débit d'air. Vous trouverez ces informations sur les modèles vendus en magasin. Hotte de cuisine. Mettez-la en marche dès que vous commencez à cuisiner. Elle doit pouvoir extraire au moins 250 pieds cubes à la minute. Les conduits d'évacuation doivent idéalement mener vers l'extérieur et surtout pas dans le comble, afin d'éviter de créer un autre problème d'humidité. Recherchez encore une fois un appareil homologué par le Home Ventilating Institute. En complément, envisagez l'installation d'un échangeur d'air ou d'un climatiseur qui peut lui aussi faire office de déshumidificateur en asséchant l'air. Déshumidificateur. Pour réduire le taux d'humidité dans la maison, considérez l'achat d'un déshumidificateur. Cet appareil peut vous être utile si vous voulez rendre votre sous-sol plus confortable ou si vous n'avez pas encore trouvé la cause de la forte humidité présente chez vous. Habitude de vie. Avant de vous coucher, laissez les stores ou les rideaux entrouverts afin de permettre à la chaleur de la pièce de se transmettre aux fenêtres et de prévenir la condensation excessive sur les vitres. Dégagez les fonds de garde-robe du sous-sol et autres endroits frais où les moisissures ont tendance à apparaître. Évitez également les douches interminables et ne faites pas sécher de vêtements à l'intérieur. Limitez aussi l'utilisation de l'humidificateur. C'était Comment régler les problèmes d'humidité dans la maison? Un texte de Stéphanie Lalu et Marie-Ève Schaffer, paru le 15 décembre 2022 dans Protégez-vous.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.